Voici l'abécédaire de la der des der.
Comme nucléaire et Fukushima. Le 11 mars 2011, un tremblement de terre d'une magnitude de 9 degrés sur l'échelle de Richter frappe la côte nord-est du Japon. Il déclenche un tsunami entraînant un problème dans le circuit de refroidissement de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, exploitée par la compagnie privée TEPCO. Le 12 mars 2011, l'agence de presse Kyodo rapporte que les autorités japonaises évacuent 20 000 habitants de la région. Une explosion suivie d'une fuite radioactive s'est produite au réacteur numéro 1. Le 15 mars 2011, après une nouvelle explosion, le Premier ministre Naoto Kan fait état d'un risque accru de fuite radioactive et recommande aux personnes vivant dans un rayon de 30 km autour de la centrale de se calfeutrer. Quelques heures plus tard, une autre explosion se produit dans le réacteur numéro 4. Les jours qui suivent marquent une succession d'annonces concernant des taux de radioactivité inquiétants, des explosions et des rejets d'eau radioactive accumulés dans les installations. Le 24 mai 2011, TEPCO confirme que les réacteurs 2 et 3 sont en fusion. Comme on s'en doute, jour après jour, depuis bientôt plus de 9 mois, la centrale continue à rejeter des quantités considérables de radioactivité dans l'air, dans l'eau et dans les sols. Comme le dit l'expert nucléaire Arne Gundersen, au lieu de minimiser le tragique de la situation, le gouvernement japonais serait bien inspiré de minimiser plutôt leur exposition aux radiations. Mais non, au lieu de ça, le gouvernement japonais a préféré promulguer une loi qui censurera sur Internet les mauvaises nouvelles provenant de Fukushima. Et l'opacité est de mise entre TEPCO et le gouvernement pour surtout ne pas informer la population. On écoute un extrait de l'émission L'Autre Monde, proposée par François Marginan, que l'on peut retrouver dans son intégralité sur le site Les 7 du Québec, intitulé Fukushima, l'effroyable mensonge.
Là, maintenant, on va y aller. Écoutez, j'ai bien envie de commencer par Fukushima. Fukushima, écoutez, ça, c'est un dossier vraiment très particulier pour plusieurs raisons. On est rendu dans la semaine 17. Alors, à chaque semaine, j'ouvre un nouveau dossier et puis j'accumule l'information. Et on est rendu à la semaine 17. Alors, ça fait plus de 4 mois que l'histoire de Fukushima a commencé. Alors, aujourd'hui, on est le 11. Ça a commencé le 11 mars. En réalité, là, ça fait 4 mois aujourd'hui. Et puis, des informations très, 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 très importantes sortent, c'est pas quotidiennement, c'est au moins à tous les 2-3 jours. Ça a été un peu plus calme cette semaine et la dernière semaine, mais les semaines précédentes, il y a des nouvelles très importantes qui sont sorties. Et puis, écoutez, ça va être impossible de passer à travers toutes et chacune des nouvelles qui sont sorties, parce que, comme je vous dis, j'en aurais pour des heures et des heures, j'ai des centaines de pages de liens et puis d'extraits d'articles. Sauf que je vais essayer de vous faire un résumé assez clair de ce qui se passe. Et puis, quand je vais faire ça, vous allez vous rendre compte un peu comme je me rends compte, et puis ceux qui suivent la situation de proche se rendent compte aussi, c'est qu'il y a un fossé énorme. Un fossé énorme entre la situation réelle sur le terrain et puis ce qui est véhiculé dans les médias et puis par les autorités, autant gouvernementales que TEPCO, qui est la compagnie qui qui est propriétaire de Fukushima Daiichi. Et aussi des agences gouvernementales de la santé qui sont responsables de la détection et puis du pistage de ces substances radioactives qui se répandent partout dans l'atmosphère à la grandeur de la planète. D'ailleurs, en parlant de ça, on a déjà commencé à mesurer des retombées radioactive, même dans l'hémisphère sud, ce qui est beaucoup plus rapide que ce qu'on pensait. Donc, c'est pour vous dire que les conséquences sont globales et puis immédiates. Et puis, pour vous illustrer la grandeur de ce fossé qui existe entre la réalité sur le terrain et puis, si vous voulez, l'image mentale, le monde virtuel dans lequel on essaye de vous faire vivre et de vous faire penser. Je vais vous parler de cette nouvelle qui est sortie. Ça doit faire environ, ça fait 4 mois, là, ça doit faire environ 1 mois maintenant que c'est sorti. Une nouvelle très importante qui a été mise à jour par un journal de l'Angleterre. Je ne me rappelle plus c'est lequel exactement. Là, j'y vais de mémoire. Là, il y a tellement de nouvelles, comme je vous dis, que ça me prendrait un temps fou là, de juste toutes les trouver pour vous les mettre en page. Je vais essayer de faire le mieux sur les nouvelles internationales. Comme d'habitude, à chaque semaine, là, je mets toutes les nouvelles là. Mais tout ce que je vous dis là, c'est documenté. Okay? C'est des nouvelles qui sont sorties. Là, donc, c'est vraiment documenté. Probablement que vous les avez déjà lues, vous aussi, si vous êtes moindrement bien informé par rapport à ça. Donc, vous avez ce journal en Angleterre qui a réussi à mettre à jour que finalement, bon, on a eu des courriels et puis on a eu des indications claires comme quoi que on savait dans les jours suivants du 11 mars, alors que le tsunami avait frappé le Japon avec ce géant tremblement de terre qui a violemment secoué le Japon et puis qui a causé ce tsunami et puis qui a frappé la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Sans compter les effets fort probables aussi du virus Stuxnet qui a été créé par les États-Unis et puis le Mossad israélien, qui avait pour but premier de trafiquer, en fait, d'endommager les systèmes informatiques des centrales nucléaires iraniennes, mais qui est un virus à source ouverte et puis qui s'est retrouvé partout sur Internet et d'ailleurs au Japon préalablement au tsunami et au tremblement de terre. Et puis il y a eu des signes assez curieux, assez typiques de ce type de virus. Donc des systèmes de refroidissement inopérants, des valves qui ne s'ouvraient pas. Et donc on a eu d'ailleurs aussi plusieurs centrales nucléaires à travers le monde, dont en Égypte, aux États-Unis, en Angleterre. Et une en Allemagne, si je me rappelle bien. En Angleterre aussi, je vais de mémoire, là, mais en Allemagne, je suis pas mal certain. En tout cas, plusieurs pays, au moins 4-5 pays comme ça, là, certains, là, où on a eu des coupures soudaines d'alimentation ou d'opérations de vannes, de valves, si vous voulez, dans le système de tuyauterie de ces systèmes de refroidissement de centrales nucléaires. Donc, on a dû interrompre momentanément, mais soudainement, le fonctionnement de différentes centrales, dont une au New Jersey, aux États-Unis. Et curieusement, tous le même problème, et puis qui sont des effets typiques de Stuxnet, qui est ce virus-là. Alors, bon, je dis ça rapidement parce qu'il faut quand même tenir ça en ligne de compte, OK, parce que c'est aussi probablement un des effets, une des raisons pour laquelle on a eu un désastre aussi sérieux à Fukushima et pourquoi on en risque un autre aussi, comme ça, dans d'autres centrales nucléaires à travers le monde. Alors, bon, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le 11 mars, bidi-bing, badabang, on arrive, tsunami, tremblement de terre, système de refroidissement inopérant. Dans les jours qui suivent, TEPCO et le gouvernement japonais et le gouvernement américain savent, sans l'ombre d'un doute, qu'il y a eu 2 à 3 fusions des cœurs nucléaires. Centrale, l'unité numéro 1, ensuite numéro 2 et numéro 3. Sans l'ombre d'un doute. Paf, on a eu les explosions. Vous vous rappelez des explosions qui sont arrivées dans l'unité numéro 1, Ensuite, on a eu une dans l'unité numéro 3 et 4. Suite à ça, on a eu des vaisseaux des vaisseaux qui contiennent les cœurs, OK? Donc, ils sont là pour garder la pression et puis éviter justement que si le cœur fusionne ou quoi qu'il arrive, ben, on a encore un vaisseau pour contenir ces matériaux-là, hautement radioactifs. Dans les jours qui suivent, les autorités américaines et japonaises et l'opérateur de la centrale nucléaire de Fukushima, TEPCO, savent qu'on a affaire à des fusions de cœurs nucléaires. Dans les heures qui ont suivi, la température a augmenté. On n'avait pas de refroidissement de ces cœurs, ces combustibles, ces créons de combustible, et puis ils ont fondu. Ça a pris 2 mois pour admettre cette vérité-là. Alors, les pires journées de dispersion et de retombées de matière radioactive de Fukushima ont été durant les journées qui ont suivi le 11 mars jusqu'au 18 mars. Les pires journées étant, si je me rappelle bien, du 14 au 16, du 14 au 18. Et puis, 2 mois plus tard, on a informé la population mondiale qu'on savait, depuis tout ce temps-là, qu'on avait des cœurs nucléaires qui avaient fondu. Non seulement qu'il avait fondu, chers auditeurs, ce qu'on pensait déjà être le pire scénario, mais on se retrouve dans le pire des pires scénarios. En anglais, ils appellent ça des melt-through. Des melt-through, c'est des melt-down, c'est des fusions de cœurs nucléaires. Puis quand je vous dis les termes anglais, c'est parce que faut inventer les termes en français parce que bien souvent, ils n'existent pas. Vous allez voir même qu'on est en train d'en inventer des nouveaux dans le cas de Fukushima. Fukushima, là, ça a été officiellement porté au niveau 7, le plus haut niveau de l'échelle internationale des accidents nucléaires, donc à parité avec Tchernobyl. Et puis, certains scientifiques sont en train justement de demander, comme je l'avais prédit, si vous retournez les émissions du passé, il va falloir créer un nouveau niveau de 8. Les scientifiques parlent de niveau 8, mais moi, je dis Fukushima, c'est niveau peut-être 9 ou 10 même. On a 3 réacteurs qui sont en fusion, puis une piscine qui contient des déchets nucléaires depuis des décennies, des dizaines d'années. On a des centaines, 1 500 tonnes de déchets nucléaires qui traînent dans une piscine, dans le bâtiment numéro 4. Et puis, ça, c'est une situation sans précédent. C'est pire que 4 fois Fukushima. Tchernobyl, excusez-moi. Une unité à Fukushima pourrait équivaloir, d'une certaine façon, Tchernobyl. Là, c'est 4 fois. C'est au moins 4 fois Tchernobyl. Hein, puis, peut-être même pire, comme vous allez comprendre. Là, j'étais en train de vous expliquer les termes anglais. Le pire des pires scénarios, c'est pas qu'on a eu des meltdowns, des fusions de cœurs nucléaires, c'est qu'on a affaire en ce moment dans l'unité numéro 1 et l'unité numéro 3, possiblement même numéro 2, ce qu'on appelle en anglais des melt-through, ce qui veut dire que le matériel fissile, hautement radioactif, le combustible qui avait fondu, qui s'est ramassé dans le fond du conteneur, si vous voulez, du vaisseau dans lequel les crayons de combustible sont insérés. Eux, ils ont fondu, ils ont passé à travers, soit qu'ils ont fondu à travers ou ils ont passé par des fissures parce que vous savez, le truc a explosé. C'est ramassé dans le deuxième conteneur. Ça a l'air d'un gros thermomètre, si vous voulez, là, grossièrement, là, pour vous donner une image. Vous avez sûrement déjà vu les images, les graphiques, là, de ça, les diagrammes. Et puis là, on a de ces trucs-là, le deuxième conteneur qui sont percés, qui sont fracturés ou qui ont été percés par la chaleur intense de ces matériaux-là qui sont en fusion. On parle ici de 1 700 à 3 000 degrés Celsius. Donc là, on se retrouve avec ce qu'on appelle des melt-through. Alors, du combustible qui fond à travers ces structures de protection-là. Puis là, on se retrouve avec ces matériaux-là qui sont à l'extérieur, dans les sous-sols des bâtiments que vous voyez sur le site de Fukushima Daiichi. Puis là, ce truc-là est en train de passer à travers la dalle de béton, est en train de s'insérer dans le sol. Puis là, il n'y a personne qui sait à quel point on sait que c'est rendu, parce qu'il n'y a personne qui est capable d'aller voir. Donc, on ne sait pas là si le truc est en train déjà de se mélanger avec la nappe phréatique qui est sous la centrale et qui est connectée avec, évidemment, des sources souterraines d'eau qui sont connectées avec l'océan et puis d'autres d'eau potable de la région. Alors, où on se retrouve avec une situation où il va être tellement difficile de récupérer ces matériaux-là que la nouvelle que j'ai vue cette semaine, on parle de commencer à récupérer ces matériaux fondus. On va commencer à les récupérer dans 10 ans. OK? Donc, eux autres, là, leur ligne de pensée, là, c'est qu'ils ne vont pas être capables de commencer à récupérer ce matériel-là dans le sol avant 10 ans. Voyez un peu l'échelle ici là, avec laquelle on est en train de dealer. Et non seulement ça, dans l'article, on disait du même souffle, on va commencer dans 10 ans si on a la technologie développer la technologie nécessaire à ce moment-là. Parce que pour le moment, on n'a aucune idée comment récupérer ce matériel-là. On n'a aucune technologie qui peut faire ça. Donc là, vous avez du matériel fissile, radioactif, en réaction, dans le sol. C'est même plus contenu, c'est dans l'environnement. Et puis là, vous avez eu un autre tremblement de terre, il n'y a pas plus tard qu'hier, de 7.3, je ne me trompe pas, au-dessus de 7 sur l'échelle de Richter. Et le grand danger, chers auditeurs, c'est le bâtiment numéro 4. Parce que là, on a beau avoir des cœurs de réacteurs qui ont fondu et qui ont passé à travers leur conteneur, les enceintes qui sont censés les garder séparés de l'environnement extérieur, qui sont rendus dans l'environnement. Mais comme je vous disais un peu plus tôt, puis je vous avais dit dans les émissions avant la pause, le bâtiment numéro 4 est une situation que personne dans l'industrie nucléaire à travers la planète n'a jamais osé imaginer. Et cette situation-là est celle-ci. C'est que si on a un tremblement de terre ou un typhon assez fort pour ébranler la structure chancelante, vous savez, si vous regardez les photos de proche, c'est reconnu par TEPCO et le gouvernement, c'est un problème qui est connu, là. Il faut qu'on fasse de quoi avec. Là. Il y a eu une explosion qui a endommagé le bâtiment et la structure même du bâtiment numéro 4. Et on se retrouve, au quatrième niveau, au quatrième étage de ce bâtiment-là, au-dessus du réacteur qui a explosé, on a ces bassins, une piscine de refroidissement dans laquelle on entrepose les déchets nucléaires. Alors, quand les crayons de combustible sont finis, puis on dit finis, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus radioactifs. Là. En fait, ils sont encore hautement radioactifs. Il faut les refroidir pendant des années. Puis bien souvent, on les emmagasine là pendant très longtemps, pendant des décennies, dans la piscine du bâtiment numéro 4, on en a, selon les chiffres disponibles, parce que là, comme je vous dis, il y a un fossé énorme entre la réalité et ce qui vous est dit dans les médias. On aurait, au moins, selon les chiffres qui sont admis, 1500 tonnes de déchets radioactifs accumulés depuis au moins 30 ans. 30, 35, 40 ans. Donc, imaginez la quantité infime qui sont dans les cœurs du bâtiment numéro 1, numéro 2, numéro 3, qui, eux, ont fondu, puis tout, là, on s'inquiète avec ça. C'est déjà quand même beaucoup de matériel. Mais c'est rien à comparer à ce qu'on a emmagasiné depuis 30 à 40 ans, qu'on a emmagasiné dans la piscine de refroidissement du bâtiment numéro 4, qui, lui, le cœur était en arrêt parce qu'on est en train de changer, justement, ces fameux crayons-là. Et puis là, on se retrouve avec cette piscine-là qui doit être tout le temps maintenue, remplie d'eau, mais qui est fissurée. Donc, on est obligé de sans cesse, constamment injecter de l'eau qui, elle, s'exfiltre, tombe dans les sous-sols du bâtiment, se ramasse dans les canaux souterrains. Et puis, on se retrouve avec au-dessus de 100 000 tonnes métriques d'eau contaminée, hautement contaminée. Puis, on ne sait pas où la mettre. On ne sait pas où la mettre. Et puis, ce bâtiment-là est endommagé, comme je disais, par une explosion. Puis, on se retrouve avec une structure affaiblie. Et puis, la structure, eh bien, elle est penchante. La structure est tellement affaiblie qu'on craint, les ingénieurs craignent, que le bâtiment s'écroule, s'affaisse au sol. Si on a un tremblement de terre assez fort ou un typhon ou que soudainement il y a trop d'eau dans la piscine ou quoi que ce soit, le truc risque de tomber au sol et la piscine de se fracasser au sol avec ses centaines, son 1500 tonnes, selon les chiffres admis, de déchets radioactifs nucléaires. Et puis ça, c'est les conséquences de ça n'ont jamais été même imaginées par la science moderne, par les scientifiques et les ingénieurs nucléaires. Ça n'a jamais été même imaginé. Ce serait une catastrophe telle que Arne Gundersen, qui est une des sommités au niveau nucléaire mondial et certainement aux États-Unis, a déclaré lui publiquement que si cela arrivait, qu'il recommandait à tous ses amis, aux Japonais, au moment même où il entendait cette nouvelle, si jamais ça l'arrivait, de quitter le pays immédiatement. Alors, on se trouve avec une situation qui est loin d'être sous contrôle. Vous avez encore ce réacteur. Écoutez, je crois que c'est le réacteur numéro 2. J'y vais de mémoire. Comme je vous dis, les deux autres, de toute façon, sont complètement fracassés, fondus. Donc, c'est forcément le réacteur numéro 2 où on enregistre des taux de radiation extrêmement élevés. On a atteint des records de 262 sievers par heure. Ça veut dire quoi, ça, 262 sievers par heure? Écoutez, avec une dose de 2 à 4 sievers par heure, n'importe quelle personne va mourir dans les heures qui vont suivre d'une exposition à la radioactivité aussi élevée, de 2 à 4 sievers. La personne meurt, se décompose, perd ses cheveux, commence à son corps se liquifie, ses organes internes se liquifient, ses cellules explosent, puis la personne, le sang il sort de tous les orifices. C'est une mort horrible. OK? 262 sievers ont été mesurés dans le cœur du réacteur numéro 2. Ça vous donne une idée? Même un robot, les circuits électroniques vont fondre. Il n'y a rien à faire, il n'y a personne qui peut s'approcher de ça. C'est tellement radioactif, c'est tellement un désastre incroyable qu'on a décidé de vous cacher la vérité. Et puis dans cet article du journal anglais dont je vous parlais précédemment, eh bien, on parlait justement de tous ces courriels qui ont été mis à jour et des discussions entre TEPCO et le gouvernement et aussi l'Agence nucléaire internationale où on a décidé sciemment, consciemment, volontairement de cacher la vérité à la population mondiale. Donc, on savait déjà qu'il y avait une fusion nucléaire et on a refusé d'admettre ce fait-là pour éviter la panique. Alors, on a mis la vie en danger et puis probablement, on a condamné des centaines, c'est pas des milliers de personnes à une mort lente et certaine parce qu'on n'a pas voulu, supposément, faire paniquer la population. On vous a menti en pleine face. Le mensonge est encore plus grand que celui de Tchernobyl alors qu'on blâmait les Soviétiques d'avoir menti puis d'avoir opéré une campagne de propagande, d'avoir essayé de dissimuler la vérité. Écoutez, chers auditeurs, il y a des zones qui sont quatre fois plus contaminées que les zones qui ont été évacuées à Tchernobyl. OK? Il y a toutes les zones. Écoutez, on parlait de environ 500 000 becquerels, je crois que c'est par kilogramme de contamination qui était nécessaire pour évacuer les zones. À partir de ce niveau-là, à Tchernobyl, on évacuait les zones, on évacuait les gens de façon permanente. Il y a des places à Fukushima où les gens sont encore dans leur maison et où on a mesuré de différentes sources fiables, des gens indépendants, des journalistes, Greenpeace, des taux de radiation 4 fois plus élevés que ce qui avait été nécessaire à Tchernobyl pour évacuer les gens. Les gens sont encore là aujourd'hui, au Japon. On est en 2011. Il y a encore plus de propagande puis de couverture de la vérité qu'il y en avait alors que Tchernobyl s'était produit en 1986. On est face à une situation tellement grave et tellement hors de contrôle. Écoutez, on ne pense même pas à commencer à récupérer le matériel en fusion avant 10 ans. Si on a la technologie nécessaire développée et disponible à ce moment-là, dans 10 ans, le Japon, le gouvernement du Japon a ouvertement admis que ce site-là ne sera pas nettoyé avant au moins 50 à 100 ans. À 100 ans, ça va prendre un centenaire avant d'espérer avoir réparé moindrement les torts qui ont été causés là. Puis quand on dit réparer moindrement, c'est parce que je ne dis pas que le site va être complètement nettoyé. Ça va rester un truc condamné éternellement. Il y a des isotopes radioactifs qui prennent seulement quelques secondes à se dégrader, qui ont des demi-vies extrêmement courtes, de quelques secondes, certaines de quelques minutes, d'autres de quelques heures. Par contre, certaines c'est quelques jours, d'autres c'est quelques mois, d'autres c'est quelques années, d'autres c'est quelques centaines d'années, d'autres c'est quelques milliers d'années. Vous en avez d'autres, c'est quelques millions d'années. Puis il y en a, chers auditeurs, c'est des milliards d'années. Des milliards d'années. Alors qu'on essaie encore de vous faire croire que le nucléaire, c'est une énergie dont on a besoin, dont on ne peut se passer. Je ne suis pas en train ici de faire le procès du nucléaire ou de le condamner ou de faire un discours anti-nucléaire. Je me fous du pour ou du contre. Je ne suis pas pour ou contre nucléaire, je suis pour la vérité et de constater si un truc est bénéfique pour l'humanité ou pas, si les effets secondaires, les effets qui sont contre nous sont des centaines, des milliers de fois plus graves et dangereux que les bienfaits, soyons pas imbéciles, changeons de cap, n'est-ce pas?
Yeah.
France, malgré Fukushima, on est bien loin d'une remise en question du nucléaire au niveau des lobbies industriels et du gouvernement, malgré le fait que 70% de la population française souhaiterait voir la question du nucléaire posée en référendum. Et le gouvernement de s'entêter à vouloir promulguer l'énergie nucléaire comme une énergie propre et écologique. Avril 2078, cité-état de Mulhouse. L'apocalypse thermonucléaire a finalement eu lieu. Les réacteurs de Fukushima n'ont jamais pu être confinés totalement et l'irradiation progressive de l'océan Pacifique ainsi que l'effondrement du tombeau nucléaire d'Onkalo ont fini par polluer irrémédiablement le cycle mondial de l'eau. Le processus fut si diffus et si lent qu'il finit par tous nous surprendre début avril 2059 avec les premiers soulèvements de mutants au Japon. La corruption que l'on a cru un temps se limiter aux poissons et à certaines plantes touche aujourd'hui la quasi-totalité de l'agriculture en sol et du bétail. Chaque créature vivante propage à même sa chair et son souffle la déliquescence nucléaire. Les orages atomiques chargent continuellement le ciel d'averses acides qui, au contact des sols, produisent une épaisse brume ocre, corrosion éternelle recouvrant l'ensemble des lignes de fuite. La majeure partie de la population mondiale est gravement irradiée et la natalité est négative depuis plus de 10 ans en raison de l'explosion du nombre de cancers prénataux. Les plus touchés par la radioactivité, irrémédiablement noyés dans une démence régressive, ravagent avec une voracité cannibale ce qui reste des nations. La peste qui leur ronge le cerveau se répand toujours plus loin au cœur des terres et les cités relativement épargnées se terrent dans de gigantesques forteresses de béton. Continuellement assaillis par les flots de migrants désespérés, par les ghouls anthropophages et leurs propres citoyens empoisonnés, ces rares monolithes urbains hébergent encore quelques survivants, reliquats invisibles peuplant ces grands tombeaux hermétiques, comme les statuettes funéraires du défunt genre humain. Au milieu du chaos, le bruit seul prédomine, le bruit de la machine filtrant l'air épais du futur nucléaire, le bruit de la machine broyant les chairs contaminées pour en extraire de l'énergie et de la nourriture, le bruit de la machine fauchant les menaces à coups de balles traçantes. Seul le bruit peut vaincre le vide de sa présence totale, repoussant mutants, souffrances et corruption à coups de fréquence. Cette projection dans un futur apocalyptique est tellement probable, est une vision de l'auteur de la mailing list du Grand Zéro, une super salle de concert en péril à Lyon. Et puis pour aller plus loin, eh bien vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission que l'on a entendue sur le site Les 7 du Québec, et puis également le site de la CRIRAD, qui font un boulot exceptionnel depuis mars 2011, depuis Fukushima, depuis le tremblement de terre. Bien sûr, vous pouvez retrouver tout un tas d'informations et vous investir dans le collectif Sortir du nucléaire. De très très bons dossiers également sur le nucléaire en France, la sécurité des installations nucléaires et puis Fukushima sur le site de Mediapart. Et pour revenir sur les luttes qui ont eu lieu à Golfech, l'excellent livre Golfech, Implantation et Résistance aux éditions Crasse, écrit par le collectif La Rotonde, est disponible encore au kiosque à Toulouse. Avec Radio Girafe, on prend de la hauteur.